Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel Dévoret.
Très bien, nous allons commencer. Merci de participer à ce cours et merci aussi de nous envoyer vos commentaires pour l'édition de ces leçons et des séminaires qui sont disponibles sur le site de la chaire. Aujourd'hui, je vais aborder ce point du calcul de Clifford. Donc, dans les trois premières leçons, j'ai introduit le formalisme des stabilisateurs qui permet de représenter de manière extrêmement compacte et commode les états d'un registre de plusieurs qubits. Ce formalisme, je suis conscient qu'il demande un certain investissement. Il peut paraître un peu abstrait, un peu obscur, mais c'est un investissement que je trouve extrêmement rentable dans le long terme, parce qu'il permet de vraiment bien comprendre le lien qu'il y a entre le calcul quantique abstrait, enfin les algorithmes quantiques, et la façon dont on fait en pratique les calculs, la façon dont ces calculs sont implémentés en langage machine, si vous voulez. Et de plus, ce formalisme est particulièrement bien adapté à cette question de la correction des erreurs qui vraiment va nous préoccuper à la fin du cours et dans le cours de l'année prochaine. Donc, ce formalisme des stabilisateurs représente un cadre d'analyse, de compréhension de l'information quantique qui est extrêmement précieux pour toutes sortes d'opérations. Il y a aussi une raison secondaire, mais qui est assez importante à mes yeux, c'est que ce formalisme en fait permet de réfléchir à ce que représente vraiment la mécanique quantique sur le plan de l'information. C'est un nouvel éclairage de ce que c'est que la mécanique quantique. Tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir Cristiano Sciutti qui va nous parler d'un sujet qui est très lié à ce cours, en fait, cette leçon particulière et la leçon prochaine, qui est la question du couplage fort dans les circuits supraconducteurs. Alors, donc, voilà le plan de la leçon d'aujourd'hui. Je vais passer quand même quelques minutes à rappeler ce formalisme des stabilisateurs, le présenter d'une façon un petit peu différente pour vraiment ancrer ces notions. Je vais aborder la question du nombre des stabilisateurs et ce qui nous permettra de parler du théorème de Gottesman et Knill, qui est très important, qui fixe un petit peu les limites de l'utilisation de ces stabilisateurs et de la question de l'accélération des calculs par les processeurs quantiques. Et bon, pour introduire ces opérations de Clifford, je vais commencer par me limiter à un seul bit. C'est toujours plus sûr de vérifier les notions sur un exemple vraiment minimal. Et j'aborderai vraiment, le but de cette leçon, qui est de présenter les portes à deux qubits. Les portes à deux qubits sont évidemment nécessaires pour effectuer tous les calculs et elles sont universelles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait faire des opérations à un qubit et à deux qubits, eh bien, on peut faire toutes les opérations. Voilà. Alors, je vous rappelle comment ce formalisme des stabilisateurs s'organise. On part de ce qu'on appelle, disons, des opérateurs de Pauli primaires qui sont pris parmi les trois matrices de Pauli et l'identité. Et on forme un mot. On forme un mot. Par exemple, voilà un exemple pour un registre à 6 qubits d'un mot qu'on peut faire. Voilà. Ces mots représentent une espèce de généralisation des mots en langage binaire. Au lieu d'avoir deux symboles, 0 et 1, ici, on a en quelque sorte quatre symboles. Et c'est des symboles. La différence aussi avec le registre classique, c'est que ces symboles ne commutent pas tous entre eux. Un élément d'un stabilisateur, un mot d'un stabilisateur, en fait, consiste en un groupe de lettres comme celle-ci, mais affecté d'un signe. Un mot est valide, peut faire partie d'un stabilisateur si il n'est pas égal à moins l'unité. Ça, c'est la restriction. On ne peut pas prendre tous les mots, il faut exclure l'opposé de l'unité. Et un stabilisateur qui représente un état du registre va être constitué d'une série de mots qui forment un groupe, c'est-à-dire que ces mots doivent être fermés par rapport à la multiplication, et en plus, ces mots doivent commuter entre eux. Donc voilà, ça c'est... Cette question de la commutation, c'est une commutation dans le langage, au sens de la théorie des groupes. Donc, si vous prenez chacun de ces mots, deux à deux, eh bien, le commutateur doit être 1 si vous le calculez comme ceci. Si vous le calculez avec la manière habituelle du commutateur en mécanique quantique, c'est-à-dire avec une soustraction, eh bien, vous devez trouver 0. Alors, la forme condensée du stabilisateur, là, qui est en principe 2 puissance n moins 1 mot, qui est long, vous pouvez vous limiter à n mots indépendants, c'est-à-dire que, eh bien, si vous prenez le produit de deux mots, eh bien, vous ne retrouvez pas le résultat dans la liste, ici. En effet, vous voyez une grande redondance ici. On n'a pas besoin, dans la forme condensée du stabilisateur, de faire figurer des mots qui, finalement, se déduisent de manière triviale de ceux de la liste. Voilà l'idée de... Alors, ces n mots affectés d'un signe, ici... représente un état. Il est possible, la richesse de ce formalisme, c'est qu'on peut représenter aussi des ensembles d'états, on peut représenter des variétés d'états, et la dimension de la variété, c'est la différence entre la dimension du registre et le nombre de mots de ce stabilisateur de taille réduite. Donc, par exemple, ici, si je pars d'un stabilisateur qui a un élément, ce qui est le cas qu'on a vu jusqu'à présent, la dernière fois, et qu'on retire un des mots, eh bien, on aura une variété qui représente en fait un qubit. On aura, et si on enlève un autre mot, on aura deux qubits, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est la dimension de l'espace représenté par le stabilisateur est d'autant plus grande que le stabilisateur est court. C'est un peu contre-intuitif. On peut représenter ces mots, si vous voulez, comme des contraintes sur l'information contenue dans le registre. Ça peut surprendre au départ, mais c'est assez logique quand on y réfléchit. Donc, en fin de compte, si on se limite au stabilisateur qui représente que des états, pour l'instant, j'utiliserai les stabilisateurs représentant des variétés d'états, elles vont intervenir dans la correction d'erreurs. Mais pour l'instant, on va se limiter au stabilisateur qui représente des états individuels du registre. Et donc, un état individuel du registre dans ce langage est représentant et par un certain nombre de lettres, de symboles de Pauli, avec le signe ici, et il y a n mots pour un registre de n bits. Et si vous voulez, ce tableau représente dans le langage quantique l'état du registre, ce que vous pouvez décrire de plus précis, ce que vous savez de plus précis pour le registre. Alors, je vous propose là de passer en revue un certain nombre d'exemples qui permettent d'illustrer ces idées. Alors, le lien qu'il y a entre ce formalisme et le formalisme habituel des quêtes, où on écrit la fonction d'onde, c'est que la fonction d'onde associée à ce tableau doit diagonaliser chaque ligne, comprise comme un opérateur, avec la valeur propre plus 1. Voilà. Donc, l'état du registre, c'est l'état qui diagonalise simultanément cette liste d'opérateurs. Alors, ici, on voit l'exemple de base, trivial. Donc, si on prend pour 2 qubits le mot plus iz et le mot plus zi, eh bien, ces opérateurs sont diagonalisés simultanément avec la valeur plus 1 par l'état 0, 0, l'état fondamental du registre. Voilà, si on change le signe, par exemple, du deuxième mot, eh bien, ça revient à faire une rotation de pi sur le premier qubit, et donc on passe dans l'état 1, 0. Voilà, puisqu'une rotation de pi sur un qubit change le signe de l'opérateur, de la lettre correspondante. Et quand vous changez le signe d'une lettre, vous changez le signe de l'ensemble du mot. Ça, c'est, disons, voilà, c'est une propriété très importante. C'est un peu comme ça que tous les qubits sont reliés les uns aux autres. Si vous aviez pris la lettre X au lieu de la lettre Z ici, eh bien vous avez un état qui est un état produit comme celui-ci, mais dans lequel chaque qubit est en fait dans un état qui pointe sur l'équateur de la sphère de Bloch, c'est-à-dire l'état 0 plus 1 sur racine de 2. Là, vous le faites deux fois, et cet état est aussi appelé plus-plus. Enfin, ça, c'est une notation souvent employée pour condenser un peu cette forme qui est lourde. Le langage des stabilisateurs, en fait, permet de généraliser ce genre de petites astuces ici qui est valable pour certains états, hein, mais qui n'a pas vraiment de généralité. Si vous changez le signe du premier mot ici, eh bien en fait, vous voyez, vous avez fait une rotation de pi sur le deuxième qubit, donc vous avez un moins ici, et cet état, vous pourriez l'écrire aussi plus moins. Vous voyez un peu comment s'établit la correspondance. Lorsqu'on a des états produits, ce formalisme des stabilisateurs semble un peu lourd. Il prend tout son ampleur lorsque vous avez des états intriqués, où là, il y a une grande clarification de ce que représente l'état avec ce formalisme. Donc, par exemple, cet état singulier ici, 0, 1, moins 1, 0, correspond à ce stabilisateur qui est assez naturel, comme nous l'avions vu la dernière fois, puisqu'il veut dire que la corrélation des deux qubits, que vous la mesuriez suivant Z ou suivant X, va être négative. Les spins sont anticorrélés dans toutes les directions. En fait, là, il n'y a que deux directions, mais si vous voulez, comme la direction Z et la direction X permettent d'engendrer toutes les directions, eh bien, ceci suffit. Si vous calculiez, par exemple, la corrélation YY, vous trouveriez, avec les règles de combinaison des symboles Z, X et Y, vous trouveriez moins YY. Si vous changez le signe ici de ce premier mot, en fait, vous trouvez une autre phase ici pour cet état. La question qu'on peut se poser, c'est finalement comment on arrive à effectuer cette correspondance entre les états donnés sous cette forme algébrique ici, purement algébrique, et puis la forme standard, plutôt vectorielle, du formalisme habituel de la mécanique quantique. Donc, par exemple, on peut, voilà, une autre combinaison. On peut expliquer assez simplement comment on arrive à cette correspondance. Le fait qu'on lise ici plus ZZ veut dire que en fait, vous devez avoir une corrélation positive entre le bit de gauche et le bit de droite. Donc, voyez, ça vous autorise que des quêtes du genre 00 et 11. Une notion aussi que je voudrais, que j'avais avancée la dernière fois, c'est que si on enlève les signes devant les mots du stabilisateur, on a ce qu'on appelle une classe de stabilisateur qui représente une base. Donc ici, si je retire les signes, je vais retrouver cet état, mais tous les autres qui, en quelque sorte, lui ressemblent, c'est-à-dire qui sont des états qui, dans lesquels les deux qubits sont corrélés, mais n'ont pas de valeur moyenne. La valeur moyenne de chaque qubit, les opérateurs à un seul qubit pour cet état ont tous une moyenne nulle. Et donc ça, c'est en fait la base dite de Bell, c'est les états de Bell. Alors, ça, c'est l'état dans la base de calcul, mais vous pouvez aussi le représenter comme un état intriqué dans une autre base, qui est la base dans laquelle je me servirai de ces états sur...
Mais j'ai l'impression que le signe est plus.
Écoutez... excusez-moi. Oui, je crois que... Oui, j'ai fait une erreur là. Oui, merci de... Effectivement, c'est plus ici. Oui, effectivement. Merci bien. Oui. Justement, ça introduit... ça, c'est une erreur typographique, mais d'une manière générale, la question qu'on peut se poser, c'est si on a un stabilisateur, finalement, comment trouver sa fonction d'onde associée sans, évidemment, passer par cet exercice assez laborieux qui serait de diagonaliser ces opérateurs et de trouver l'état propre qui diagonalise simultanément ces deux opérateurs avec la valeur propre plus 1. Alors, en fait, on est très aidé par cette symétrie entre ces opérateurs Z, X et Y qu'il faut bien se visualiser comme les trois directions d'un triède orthogonal. Alors, vous voyez, à partir de cette information, si on admet qu'on a cette information ici, en fait, on peut voir que de passer de ce stabilisateur à ce stabilisateur dont on cherche la fonction d'onde, ça correspond simplement à effectuer une rotation de pi sur 2 autour de y. Hein? En effet, une rotation de pi sur 2 autour de y va changer z, va mettre z dans la position de x et x dans la position de moins z. Ce qui se passe ici. Donc, en fait, il suffit de prendre cette fonction d'onde ici et puis simplement de tourner le deuxième qubit, ce qui, pour une rotation autour de Y, est assez facile et on arrive comme ceci, sans cette lourde diagonalisation, à trouver la fonction d'onde. Voilà, il y a un certain nombre de petites astuces intéressantes qui permettent de comprendre ces changements de base. Donc, si vous voulez, par exemple, la question que vous pouvez vous poser, c'est finalement comment j'avais réussi à trouver cette fonction d'onde en premier lieu. Là, je la réutilise ici, mais finalement, comment on y arrive? Eh bien... En fait, ce stabilisateur est très proche en fait du stabilisateur qui correspond à cet état fondamental qui fait partie de la base de calcul. En fait, il y a un mot caché ici qui est le produit de ces deux opérateurs qui va nous servir de pivot. C'est-à-dire pivot, ça veut dire qu'on va garder ce mot Et puis, on va en essayer d'en adjoindre un autre. Et vous voyez que le second mot qu'on a choisi ici, c'est plus XX. Alors, quel est l'état qui peut, partant de 0, 0, eh bien, diagonaliser plus XX? Eh bien, c'est tout simplement cette combinaison linéaire entre 0 et 0, 0 et 1, 1, puisque si vous appliquez cet opérateur XX à 0, vous avez 1, 1, vous savez que X échange en quelque sorte le 0 et 1, et donc vous voyez que vous avez bien une valeur propre de 1 pour cet état. Voilà. Après, tout changement de phase peut se traiter assez simplement à partir de ce genre de considération. Alors, ces idées de pivot vont vraiment servir dans des exercices beaucoup plus compliqués qui sont lorsque vous augmentez le nombre de qubits, ces petits exercices peuvent devenir assez laborieux. Et c'est important de les faire parce que justement, c'est pour un nombre de qubits au moins égal à 3 que le formalisme prend toute son utilité. Alors, prenons l'exemple de cet état qu'on va discuter dans ce cours, hein, qui est un état absolument crucial parce qu'il permet la correction d'erreurs. C'est un état qui est aussi surnommé GHZ, hein, Greenberger-Horn-Zeilinger, c'est un état qui est la superposition de tous les qubits dans l'état up et tous les qubits dans l'état down. En fait, lui aussi, il est très proche, cet état, de l'état de base, 0, 0. Mais ici, il y a non pas un pivot, mais deux. En fait, on va, dans cette liste de mots qui décrit cet état, il y a ces mots qui résultent du produit de ces mots de base, et on va se servir de ces mots comme pivot. On va les garder dans la liste ici. Et puis, on adjoint un troisième mot qui, vous voyez, qui est basé un peu sur le même principe ici. C'est un opérateur qui envoie socket sur celui-là et vice-versa. Donc, en fait, cet état va être un état propre de cet opérateur. Et c'est un état propre aussi de ces opérateurs de pivot, puisque les corrélations, ils respectent les corrélations entre la projection suivant Z du spin. Si vous vous intéressez au ket qui est appareillé à celui-ci, qui va nous servir comme dans la correction d'erreur, eh bien vous voyez qu'il suffit d'inverser ici, de mettre un signe moins pour avoir une valeur propre égale à plus 1 pour cet état. Vous voyez, je vous illustre un petit peu la façon dont on peut établir le lien entre les états et les stabilisateurs. Alors, comme je l'avais indiqué la dernière fois, il est beaucoup plus commode, il est beaucoup plus riche de se représenter cet état de cette façon, parce que cette façon nous indique, en quelque sorte, nous donne le programme pour réaliser cet état. En effet, comment atteindre cet état à partir des états du registre qu'on s'est préparé? Ça, c'est une question très importante qui n'est pas du tout évidente à comprendre dans le langage habituel, dans le formalisme habituel de la mécanique quantique, alors que dans cette description, eh bien, vous allez voir qu'en quelques manipulations de symboles, on arrive très facilement à ce stabilisateur. Donc, ce que je voudrais vous indiquer ici, c'est que ce formalisme des stabilisateurs, il généralise l'algèbre de Boole. C'est une espèce d'algèbre de Boole étendue, si vous voulez, avec des symboles non commutatifs. Mais on s'est complètement éloigné de l'algèbre linéaire habituelle de la mécanique quantique, finalement, pour faire de l'algèbre pure avec des symboles un peu spéciaux, mais finalement, On fait des calculs algébriques pour finalement comprendre les étapes, comment on part des états qu'on sait réaliser pour arriver à ceux qu'on désire préparer. Par exactement comme finalement on le ferait à partir des fonctions et ou non du calcul de boules ordinaire. Donc là, une question qui se pose immédiatement, c'est ces stabilisateurs, finalement, ils semblent combien... on n'a pas, pour l'instant, expliqué quelles sont les règles qui permettent de voir la façon dont ils croissent lorsqu'on augmente le nombre de qubits. Alors, ce que je vous propose, là, c'est d'examiner... comment on bâtit une classe de stabilisateurs. Et là, je vais me limiter à 3 qubits, mais enfin, vous voyez qu'on a assez de qubits pour comprendre comment le processus va se généraliser à un nombre quelconque. Donc, on va partir de tous les ensembles, tous les mots primaires. Et pour 3 qubits, ça représente un cube de 4 par 4 blocs, puisque vous avez 4 lettres et puis vous avez 3 qubits. Ce cube ici, en haut à gauche, ça va être l'identité, mais j'ai représenté ici quelques noms pour chaque cube. Commençons donc à bâtir un stabilisateur arbitraire. Alors, on va commencer par, dans ce volume ici, il faut prendre... un opérateur qui ne soit pas l'identité. Donc, prenons par exemple celui-là, IIZ. Comment va-t-on choisir le second ? Le second doit commuter avec le premier. Et là, il faut faire intervenir une propriété très importante du groupe de Pauli, c'est que la moitié des opérateurs, quand vous sélectionnez un opérateur, il va commuter avec la moitié du reste et anti-commuter avec l'autre moitié. Il y a une division exactement égale de l'ensemble. Donc, ce cube, ce choix ici, va immédiatement exclure la moitié du cube, une moitié, si vous voulez, qu'on peut voir perpendiculaire, dans un plan perpendiculaire ici, une direction qui pointerait vers cet opérateur. Donc, tous ces petits cubes ici, tous ces opérateurs doivent être exclus du choix suivant. Donc, voilà, on va prendre le second opérateur, qui va être le mot IZI, par exemple, et on itère le processus. À chaque fois qu'on choisit un mot, on exclut la moitié du volume restant. Donc là, j'avais cette première division, j'excluais tous les cubes à droite de cette frontière, et là, maintenant, je vais exclure tous les cubes qui sont en dessous de ce plan, et ainsi de suite. Donc on itère cette opération. Il y a juste une petite précaution à prendre, c'est qu'on ne peut pas choisir le nouvel opérateur parmi ceux qui sont les produits des opérateurs précédents. Voilà, par exemple, une possibilité de choix, et vous voyez qu'il suffit de répéter ce processus jusqu'à, disons, avoir une liste de n mots. Donc, si on fait le compte de tous les choix possibles, qui est très simple, on arrive à cette formule assez jolie, où on a ce produit ici qui comprend deux termes et qu'on peut chaque terme se factorise. Et en fait, il se produit une circonstance heureuse ici. Un de ces facteurs ici va disparaître parce que quand on comprend ce processus de construction en détail, on voit qu'il est redondant. En fait, on bâtit une liste ordonnée, mais on doit éliminer cet ordre qu'on a choisi dans la liste parce que la base en fait correspond à une liste d'opérateurs non ordonnés. Donc il y a des facteurs redondants à éliminer, et ça correspond en fait à ces facteurs. Donc, à la fin, la formule qui donne le nombre de stabilisateurs est assez simple. C'est simplement le produit des puissances de 2 ajoutées d'une unité. Donc, 3, 5, 9, etc. Voilà. Voilà le nombre de stabilisateurs. Voilà comment ce nombre croît en fonction du nombre de qubits. Vous voyez que simplement à 5 qubits, c'est quand même plus de 2 millions. Et la loi asymptotique de cette croissance, si vous prenez l'information qui est contenue dans le choix d'un stabilisateur, qui est le logarithme en base 2 du nombre de stabilisateurs, vous voyez que cette information, elle est super extensive, elle croît en fait proportionnellement au carré du nombre de qubits. C'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. En fait, c'est le carré du nombre de qubits divisé par 2. Donc, vous voyez, c'est ce tableau de n par n symboles, eh bien, les symboles sont corrélés avec chacun, avec les uns avec les autres, et cette corrélation tue un certain nombre de bits de ce tableau. Vous n'avez plus qu'un demi-bit par case du tableau, si vous voulez. Donc, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que vous avez une information qui croît plus vite que le nombre de qubits. Et ça, c'est extrêmement précieux. Vous stockez de l'information. En fait, vous stockez beaucoup plus d'informations dans les corrélations que dans les qubits individuels. Pourtant, il y a une certaine déception qui est associé à ce résultat, qui est assez joli. Et cette déception est encapsulée dans ce qu'on appelle le théorème de Gottesman et Knill, qui ont été extrêmement déçus par cette croissance qui est tout simplement polynomiale. Elle est merveilleuse parce qu'elle est plus grande, plus forte que n. Donc vous gagnez vraiment quelque chose d'assez phénoménal, mais la mode veut que ça ne suffit pas. Ce qui aurait été beau, ça serait une croissance qui serait exponentielle, enfin avec l'exponentielle de n. Une accélération donc exponentielle des possibilités de l'ordinateur quantique si vous vous limitiez à ces états. Et donc ce n'est pas possible. Si vous vous limitez à ces états de Clifford, vous n'aurez qu'une croissance polynomiale des possibilités de la machine. Et une croissance polynomiale, en théorie de la complexité, bon, ça vaut rien. C'est tout ce que vous pouvez faire avec cet ordinateur de Clifford. Vous pourriez le faire avec un ordinateur de classique. Bon, moyennant évidemment un temps qui est le carré du temps de l'ordinateur classique correspondant, mais ce carré ne semble pas être jugé suffisamment important. Ça, c'est ça. L'histoire dira si finalement se contenter de ce carré n'est pas déjà suffisant pour toutes sortes d'applications intéressantes. Ces états de Clifford, donc, qui sont ces états cardinaux, donc ils ne représentent pas tout l'espace de Hilbert disponible. Donc, ce que le théorème de Gottesman et Knill dit, c'est que si vous voulez implémenter des algorithmes comme la factorisation des nombres qui ont un gain apparemment exponentiel, eh bien, vous utilisez des états qui sont en dehors de ces états cardinaux. Vous utilisez, si on compare les états cardinaux au squelette de l'espace de Hilbert, vous avez besoin de la chair pour accélérer les calculs de manière exponentielle. Si vous voulez accélérer les calculs de manière polynomiale, le squelette peut suffire. Ce squelette, quand même, permet toutes sortes de propriétés quantiques intéressantes. Vous pouvez, il contient l'intrication, ce squelette, l'intrication maximale. Il va contenir la violation des inégalités de Bell lorsque vous avez plus de 2 qubits. Ça ne marche pas avec 2 qubits, mais ça marche avec 3 et n qubits. Ça contient toutes sortes de choses exotiques comme la téléportation. Et surtout, ce qui nous intéresse, donc ces états, en vous limitant à la manipulation de ces états, vous corrigez parfaitement le registre pour toutes les erreurs. Donc, ces états de Clifford ne représentent pas toute l'histoire. C'est une portion, c'est une mécanique quantique un peu élémentaire, un peu, on va dire, enfantine peut-être, mais elle a quand même toutes sortes de propriétés intéressantes. En tout cas, c'est un bon départ, c'est une bonne idée de se limiter déjà à ces états fascinants pour comprendre le calcul quantique en profondeur. Et une dernière remarque que je voudrais faire, qui est très importante pour les expériences, c'est que ces états, ou les portes qui permettent de passer d'un état à l'autre, sont des portes qui sont faciles à réaliser dans les expériences et surtout faciles à contrôler. Si on sort du cadre de ces états de Clifford, il est beaucoup plus difficile de faire la preuve que les portes marchent. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important sur le plan pratique. Donc, les opérations de Clifford sont facilement testables. Si vous avez un algorithme quantique qui ne contient pas des opérations de Clifford, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile d'assurer la fiabilité de cette porte et son contrôle. Donc, dans une optique de contrôle des états quantiques, ces états de Clifford et ces opérations de Clifford vont jouer un rôle essentiel. Donc voilà, là on a parlé des états, maintenant parlons des opérations qui permettent de passer d'un état à l'autre. Donc ces opérations sont appelées opérations de Clifford, les états sont appelés de Clifford, les opérations aussi, et entraînons-nous déjà à les comprendre avec un seul qubit. Ces opérations, elles sont toutes représentées de la façon suivante par un petit tableau qu'on appelait souvent tableau de Gottesman que j'explique ici. Donc, vous avez besoin uniquement, pour comprendre une opération, de savoir comment elle envoie, ce qu'elle fait au mot de base. Alors, si vous avez un qubit, vous n'avez besoin que de comprendre comment vous transformez Z et X. Parce que dans ce formalisme, chaque opération peut être vue comme un isomorphisme. C'est un isomorphisme du groupe de Pauli dans lui-même. Donc en fait, vous n'avez besoin que de connaître la transformation des générateurs. Et donc Z et X sont des générateurs indépendants et leur transformation suffit. Donc, vous voyez, vous avez deux générateurs dont vous voulez connaître les images. Ces images ne peuvent pas être, bien sûr, l'identité ou moins l'identité. Donc, vous avez six choix pour le premier, puisque vous devez le prendre dans cet ensemble, six choix pour le premier. Et puis, pour le second, vous ne pouvez pas reprendre un des premiers, puisque il faut que, pour respecter l'isomorphisme, il faut que le second choix anticommute avec le premier. Donc, ça introduit une restriction. Donc, vous avez six possibilités pour le premier et quatre pour le second. Donc, en fait, il y a 24 opérations possibles de Clifford pour un qubit. 24 opérations. Et ces 24 opérations forment ce qu'on appelle le groupe de Clifford à un qubit. Alors, ne vous laissez pas impressionner par cette longue liste. En fait, c'est relativement simple. Voilà l'identité ici. Alors, il y a un élément qui, si vous ouvrez un livre de calcul quantique ou un article, vous allez tomber constamment sur cette lettre H, qui n'est pas l'hamiltonien, qui est l'opération de Hadamard, qui est une simple permutation des lettres Z et X. Simple permutation, on permute X et Z. Et là, vous avez des opérations que je note qui correspondent à des rotations de pi sur 2. La lettre sol entre crochets, c'est une rotation de pi. mais si les crochets sont élevés à la puissance moins 1 demi, si on vous a fait la racine carrée d'une rotation de pi, c'est une rotation de pi sur 2. Donc voilà, tous ces éléments en fait sont des rotations de pi sur 2. Vous voyez que en fait il n'y a pas 24 éléments ici, il y a des éléments qui ne sont pas contenus, il y a des éléments du groupe de Clifford qui ne sont pas contenus dans cette liste, ce sont des rotations de 120 degrés qui sont des combinaisons de ces opérations-là, et on ne va pas beaucoup les rencontrer. Vous pouvez vous poser la question pourquoi ici je mets des crochets doubles, des crochets gras ici, alors que la dernière fois j'avais introduit des crochets ordinaires. Alors c'est que ici on travaille en représentation d'Heisenberg. Cet opérateur ici agit sur des quêtes. C'est l'opérateur avec que vous devez utiliser pour multiplier que vous devez mettre devant un quet pour retrouver son image. Mais ici, ce n'est pas l'image des quets qu'on veut, c'est l'image des opérateurs. On est passé en représentation d'Heisenberg, donc les transformations sont ici, correspondent à des super-opérateurs et non pas des opérateurs ordinaires. C'est pour ça que j'utilise ce petit changement de notation. Si vous lisez la littérature, vous verrez que très souvent, il y a une confusion. Enfin, souvent, les auteurs ne font pas cette distinction entre opérateur et super-opérateur, et ça peut introduire une certaine confusion. Voilà. En fait, ce groupe de Clifford, il est très simple. Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est simplement le groupe de transformation d'un cube en lui-même. C'est le groupe de symétrie du cube. On voit que, par exemple, cette opération de Hadamard qui échange X et Z, c'est en fait une rotation autour d'une direction biscornue qui est la diagonale entre X et Z. Ça va nous expliquer pourquoi, bien que les livres, disons, d'informatique quantique sont remplis de ces symboles, on ne va jamais avoir envie d'effectuer cette opération en pratique dans nos circuits, parce que cette direction qui est diagonale, qui est une bisectrice ici de ce triède, est extrêmement mal commode à réaliser. Donc c'est un générateur intéressant, cette permutation entre X et Z, cette transposition entre X et Z. Ces transpositions sont très souvent employées dans la théorie des groupes, mais c'est une opération en fait qu'on ne veut jamais réaliser en pratique. Une opération que l'on aime bien, c'est cette rotation autour de Z qui se fait très simplement en changeant la fréquence du qubit. Donc cette rotation de pi sur 2 autour de X est une opération que l'on sait très bien faire. On irradie le qubit avec une impulsion radiofréquence, comme je l'avais indiqué dans la deuxième leçon, et cette opération, qui est une rotation de pi sur 2 autour de y, se fait de la même façon, mais en décalant la phase de pi sur 2 de la radiofréquence. Donc finalement, ça, c'est les opérations que l'on sait bien faire, cette opération tout à fait basique, théoriquement, et en fait toujours exclue. Oui, juste une petite remarque peut-être importante. L'intérêt de cette notation, de mettre une lettre entre crochets avec une puissance ici, c'est que, en fait, on lit très simplement comment se fait la rotation. Donc Z à la puissance moins 1,5, c'est tout simplement une rotation de pi sur 2 dans le sens trigonométrique positif autour de l'axe Z. Voilà. Et c'est très simple à visualiser l'opération à partir de la notation. Alors, comme il s'agit d'un super opérateur, ici, il y a une petite subtilité quand même, c'est que le carré de cette... Là, comme on a en fait maintenant des vraies rotations, eh bien, le carré d'une rotation de pi, ici, c'est l'identité. Si vous vous souvenez, dans le langage des opérateurs de Pauli, quand vous aviez une rotation de Pauli au carré, en fait, vous n'aviez pas l'identité, mais moins l'identité. Voilà un peu comment comprendre ce groupe de Clifford. On peut l'imaginer de cette façon. Vous avez un cube, En fait, le cube va être matérialisé par quatre diagonales, donc que vous pouvez imaginer ici. Il y a une première diagonale qui part de ce sommet, une autre qui part de ce sommet 2, là, en vert, une troisième qui part de ce sommet jaune, et une quatrième qui part de ce sommet bleu. Et donc, finalement, ce groupe de l'octaèdre, en fait, contient, hein, c'est le groupe de permutations, toutes les permutations de quatre objets qui sont les diagonales de ce cube. On peut voir aussi ces objets comme les faces, une paire de faces d'un octaèdre. L'une ou l'autre de ces représentations est utile. Et donc, cette transformation de Hadamard, très théorique, correspond en fait tout simplement à une transposition entre l'objet 1 et l'objet 4, alors que ces opérations de rotation autour des axes en fait correspondent à des permutations. Donc, dans le langage des groupes, il est naturel de choisir une transposition et une permutation comme générateur du groupe, mais dans la pratique, en fait, on préfère engendrer toutes les transformations du groupe par deux rotations de pi sur 2. Donc, on va se limiter toujours en pratique dans nos circuits, et je pense que c'est valable en fait pour toutes les implémentations pratiques de l'information quantique, à ces rotations de pi sur 2, et vous n'allez pas voir beaucoup d'opérations de Hadamard. D'ailleurs, en fait, il y a toutes ces opérations sont interchangeables. Si vous savez faire une rotation autour de Z et autour de X, voyez, par cette combinaison ici, vous allez savoir faire des opérations, une rotation autour de Y. L'opération de Hadamard, si vraiment vous aviez besoin de la faire, vous pouvez la faire à partir de cette rotation de pi sur 2 autour de x, encadrée par deux rotations autour de z. Mais vous voyez, elle est quand même assez coûteuse. Donc, en général, on l'exclut purement et simplement, et on la remplace par, en fait, une rotation autour de y. Maintenant, on va passer aux opérations à deux qubits qui sont absolument cruciales pour effectuer les calculs. Donc, comment sont-elles réalisées en pratique? Je vais vous présenter l'exemple d'un processeur réalisé à Yale avec deux qubits qui, ici, sont deux transmons. Et qui sont en fait ces deux atomes artificiels qui sont placés dans une cavité qui est en fait une ligne de transmission de type Fabry-Perot avec deux miroirs qui sont à l'extrémité ici de la ligne. La ligne est en fait une ligne méandre pour faire tenir la fréquence qui est environ 7 GHz ici dans cet espace assez réduit de quelques millimètres. Alors, les opérations à un qubit sont réalisées de cette façon. On a parlé de rotation autour de Z, et donc cette rotation symbolique autour de Z pour le premier qubit en fait est obtenue par cette ligne de flux. En appliquant un courant ici à cette ligne, on va appliquer un champ magnétique. Ici, il y a une petite boucle, et ce courant va donner un petit champ magnétique sur cet atome artificiel et déplacer sa fréquence de résonance. Même chose pour le qubit numéro 2. Donc vous voyez, ces courants, les courants I1 et I2, sont la façon dont on va en pratique réaliser ces opérations symboliques. C'est extrêmement amusant de penser qu'il y a un lien aussi direct entre des courants et des tensions et finalement des symboles. Des symboles qui ne vont pas commuter en fait. Comment on fait des rotations autour des axes X ici? Eh bien, c'est en envoyant de la radiofréquence. Il suffit d'irradier chacun des qubits à sa fréquence de résonance, puisque les deux qubits partagent une même cavité. Simplement, en envoyant ces deux radiofréquences qui sont différentes, on pourra dresser sélectivement l'un qubit ou l'un des deux qubits et donc réaliser ces opérations. L'angle de la rotation est fixé par le temps d'irradiation. Plus on irradie longtemps, plus l'angle sera grand. On avait vu ça dans la deuxième leçon. La lecture, enfin, comment lit-on le résultat ? Eh bien, en envoyant une radiofréquence, là, cette fois-ci à la fréquence de résonance propre de la cavité, on va, à partir du déphasage de cette radiofréquence qui est mesurée par cet amplificateur ici et recombinée avec une référence, on va, la tension homodyne va nous donner la phase, le déphasage de la cavité va nous renseigner sur les états des qubits. C'est Léo Di Carlo, la semaine prochaine, nous expliquera en détail ce protocole. Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, un peu en détail, c'est la façon dont sont réalisées les opérations à deux qubits. Parce que ici, finalement, je vous ai indiqué en détail la façon dont on implémentait les opérations à un qubit, mais comment on peut réaliser les opérations à deux qubits. Avant de vous expliquer ça, je voudrais vous montrer que cette architecture est très intéressante parce que, sans beaucoup plus de complications, on peut passer de 2 à 4 qubits. C'est exactement la même chose, on peut finalement mettre plusieurs circuits le long de cette ligne et chaque circuit va introduire des fils supplémentaires, mais enfin la complexité ne croît que linéairement, finalement la complexité de ce circuit ne croît que linéairement avec le nombre de qubits, c'est encore gérable. Plus on a de prises ici, plus on a un nombre de prises, si vous voulez, d'accès sur le chip qui est proportionnel au nombre de qubits. Il y a une petite modification, c'est qu'ici, les capacités des transmons sont des capacités interdigitées avec des dents. Et là, ici, les dents ont disparu. C'est un chat édenté là, que vous avez. Voilà. Si on se limitons, oui. C'est une tentative, ça, pour. La capacité est plus longue et il y a moins de dents. On n'est pas très sûr que ces capacités soient très saines, en fait. Il y a toute une controverse sur le facteur d'amortissement de cette cavité. Peut-être. Une capacité de type plus simple avec des électrodes très séparées est meilleure que une forme un peu en zigzag comme ça et avec une distance réduite. Je m'empresse de dire que ça n'a pas à voir. On n'a pas perdu déjà, mais on n'a pas vraiment gagné dans le taux de décohérence. Donc c'est pas. Revenons à 2 qubits, limitons-nous à 2 qubits seulement et regardons comment on passe de ce circuit à son hamiltonien. Ces transmons, c'est très pratique parce qu'on peut les considérer comme des oscillateurs presque harmoniques, c'est-à-dire vous avez une série d'états ici et la distance entre chaque état est presque la même, mais il y a une petite compression des états, ils se tassent un peu lorsqu'on augmente le numéro de l'état, et ça correspond dans l'hamiltonien à ce terme anharmonique. Ce terme-là, ici, c'est tout simplement l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique. Vous avez besoin de cette anharmonicité, de toute façon, pour séparer ce doublet, ici, 0 et 1, de tous les autres. Même chose pour le qubit numéro 2, mais qui a une fréquence, lui, qui est légèrement plus petite dans cet exemple, et peut-être une harmonicité aussi différente. Et ces deux qubits sont en interaction avec un troisième élément, qui est la cavité micro-ondes, qui, elle, est un vrai oscillateur harmonique, donc... Et dont la fréquence dans la fréquence d'excitation est plus grande que la fréquence de base des qubits. Si, bon, écrire l'hamiltonien total du circuit, c'est très facile. Vous additionnez tous ces termes correspondant à toutes les pièces possibles, mais il y a des termes de couplage. Il y a un couplage entre la cavité et les qubits, et ce couplage, dans la limite de l'onde tournante, si pour des systèmes de relativement grands facteurs de qualité, comme c'est le cas ici, donc Cristiano va nous parler tout à l'heure des cas où finalement cette règle que j'emploie ici ne va pas marcher, mais pour vous décrire ces opérations de qubits, cet hamiltonien de couplage va suffire. Il est très simple. La façon dont la cavité et les qubits interagissent, c'est qu'un quantum d'un qubit peut être échangé avec un quantum de la cavité. Donc cette combinaison d'opérateurs, ça décrit tout simplement un flip-flop. C'est-à-dire que si le qubit ici perd un quantum, il est récupéré par la cavité et vice-versa. Il y a un échange tout simplement des quanta, pas directement entre les qubits, mais toujours en passant par la cavité. Et c'est ce couplage indirect entre les qubits via la cavité qui va servir d'hamiltonien de couplage entre les qubits. Ça, cette recette est vraiment générale. Tout le monde, de près ou de loin, emploie cette idée. Vous avez un troisième élément qui sert de couplage entre deux, par cet échange de quanta virtuel. Et en pratique, ce que je vous présentais, c'était une image d'état à une particule. Chacun de ces niveaux correspond au système, à une pièce du circuit prise séparément. Mais lorsqu'on veut comprendre les opérations du registre, il faut travailler dans les états global du système. Et donc là, pour deux qubits qui vont avoir deux nombres quantiques qui donnent l'état du qubit de gauche, du qubit rouge et du qubit bleu. Alors, là, je représente cet état en fonction d'un paramètre extérieur qui est le champ appliqué en fait, au qubit rouge, au qubit numéro 1. On a vu qu'on pouvait appliquer des champs séparés sur chacun des qubits. Ce qu'on va faire changer, là, c'est le champ extérieur appliqué au premier qubit. Donc, lorsqu'on applique un champ au premier qubit, on va faire varier sa fréquence. Donc, ça correspond à cette ligne ici. Et alors que la fréquence du second qubit, lui, ne va pas bouger. Voilà, les deux qubits pris en même temps ont un état ici 1-1 qui lui aussi bouge puisque le premier bouge et vous voyez que cette ligne ici est parallèle à celle-ci. Alors si vous disposez les fréquences des qubits correspondants et si vous faites varier le champ dans la bonne direction, vous arrivez à ce croisement de niveau où finalement cette interaction indirecte via la cavité va mélanger ces niveaux 1-0 et 0-1. C'est-à-dire que vous réalisez par ce couplage à la cavité une interaction de type flip-flop entre les qubits. Cette interaction, vous pouvez la brancher. Ici, elle est maximum lorsque le champ a cette position magique, ici, où le croisement, les niveaux, l'anticroisement est parfait. Mais si vous éloignez de cet anticroisement, si vous allez relativement loin, vous pouvez vous convaincre que, en fait, vous coupez cette interaction. Vous avez un rapport on-off, arrêt-marche de cette interaction, d'autant plus fort que vous pouvez vous éloigner en fréquence de cette plage. En pratique, pour ce type d'interaction, on peut avoir un facteur 50 ou un peu moins. Cette interaction flip-flop, on va voir qu'elle n'est pas très, très utile. Enfin, elle est difficile à utiliser dans les calculs. Il y a une interaction qu'on préfère de beaucoup. C'est une interaction qui paraît plus compliquée en termes de niveau, puisque au lieu de 4 niveaux qui vont être impliqués ici, il va y en avoir 5. Mais ça va conduire à une interaction beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante. Et cette interaction fait intervenir un cinquième niveau dans l'affaire, c'est-à-dire que on va utiliser une ressource qu'on n'a pas discutée, c'est qu'on n'a pas les registres est constitué d'atomes et on va pouvoir profiter des états excités de l'atome pour l'interaction. Donc si on dispose les fréquences des qubits de manière correcte, on va avoir ce croisement de niveaux très intéressant entre l'état 2-0, où il y a deux quantas dans le premier qubit, et cet état 1-1, qui ici, dans ce flip-flop, ici, n'était pas affecté. Donc c'est ça qu'on recherche, on recherche ce croisement-là, je ne recherche pas du tout à faire croiser ces niveaux 0-1 et 1-0, il ne va pas y avoir de flip-flop du tout. Ce qui se passe, vous voyez, à ce croisement de niveaux, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris l'état 1-1 et vous avez perturbé sa fréquence. Quand vous passez de cette configuration où l'interaction est off, vous avez des états purs ici, et bien lorsque vous diminuez le champ, donc le champ va varier en sens inverse, dans cet exemple, hein, ça peut être dans la même direction si vous choisissez les niveaux de façon différente, mais en passant de cette valeur du champ à cette valeur-là, en atteignant ce croisement, vous n'avez pas touché à ces états, mais vous avez touché au niveau 1-1 et au niveau 1-1 seul. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça donne une interaction dite séculaire. Ça abaisse l'énergie de ce niveau-là par rapport aux trois autres seulement. Et ça va vous donner une interaction de type ZZ. C'est une interaction particulièrement intéressante et symétrique. Ici, cette interaction flip-flop, elle n'est pas si intéressante que ça. Donc, l'interaction flip-flop, c'est un échange de quanta entre les deux qubits. Et malheureusement, cet échange de quanta entre deux qubits, qui pourtant paraît très sympathique, en fait, dans le langage des opérateurs de police, c'est la présence simultanée de XX et de YY. Et quand vous prenez cet Hamiltonien d'interaction entre ces deux spins effectifs, eh bien, vous ne pouvez pas avoir du XX pur ou du YY pur. Vous avez toujours une combinaison, une 50-50 entre les deux. Et cette combinaison, ici, en fait, n'a pas les mêmes propriétés du tout. Ça paraît curieux, mais si vous voulez, il y a une espèce de nœud que vous introduisez dans les fonctions d'onde lorsque vous vous servez de cette interaction. Nœud qu'il va falloir corriger. Si vous avez cette interaction ici, que vous êtes capable de l'extérieur de modifier ces coefficients, alors ce qui est possible de faire naturellement, c'est de se déplacer le long de cette ligne ici, et donc d'arriver à cet opérateur ici, eh bien, vous n'avez pas, vous voyez, il est rouge, en fait, vous faites un nœud dans la fonction d'onde qui est tout à fait indésirable, et la façon d'enlever ce nœud, c'est de effectuer cette trajectoire, de vous arrêter à la moitié, et de changer, de faire un flip d'un des qubits de façon à tourner à 90 degrés et d'arriver à ce point-là, ici, ce point vert, ou ce point vert-là, qui sera vraiment équivalent à un bon opérateur. Donc, c'est possible d'utiliser l'interaction flip-flop. Cette interaction flip-flop d'échange de quanta entre deux qubits paraît très naturelle, mais elle contient une restriction qui va finalement augmenter le nombre des opérations effectuées. Donc, elle n'est pas. C'est un peu mal commode. C'est un peu mal commode. Donc, une grosse préférence vis-à-vis de cette interaction ZZ que les gens qui font de l'ARMN connaissent très bien. C'est leur interaction habituelle. Donc, on se retrouve assez, finalement, placé dans une situation qui est très proche de celle de l'ARMN. Oui ? Oui. Alors, vous voulez dire que... Alors, cette interaction ici, cette interaction séculaire, c'est celle qui est obtenue dans ce schéma. Donc, si vous utilisez ce schéma, vous avez cette interaction séculaire. Mais si vous utilisez le flip-flop, vous avez ça. Vous voulez peut-être parler d'une situation où il y aurait les deux.
Oui, où il y aurait les deux avec
des coefficients.
G parallèle et
oui. Oui. Alors ça, c'est très. Oui, merci de cette question. En fait, effectivement, il y a une. Vous pouvez avoir quelque chose d'isotrope. Vous pourriez avoir une interaction d'échange. C'est en fait l'interaction d'échange où vous avez simplement le produit des vecteurs et toutes les composantes ici sont égales. G parallèle. Vous pourriez avoir ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là avec des constantes égales. Donc c'est ce qui s'appelle l'interaction d'échange. Ça, c'est considéré dans les systèmes semi-conducteurs. Ça pas c'est bon. Cette interaction d'échange peut servir de primitive au calcul, mais toujours modulo ses restrictions sur son efficacité. Donc elle est aussi universelle. Elle peut, il a été démontré qu'elle pouvait tout à fait convenir, mais c'est un peu plus lourd. C'est-à-dire, en termes d'efficacité, cette primitive ici est absolument imbattable. Si vous savez la réaliser, vous avez des algorithmes plus compacts. Il n'y a rien de magique dans Z. Hein. Si vous pouviez faire XX, ça serait tout aussi bien. Mais en fait, en pratique, si tous les processus physiques qui vous permettent de faire XX vous font faire YY en même temps, et c'est ça qui ne va pas très bien. Donc, un gros bonus quand même si vous êtes capable de réaliser ces rotations de pi sur 2 autour de ZZ. Là, je voudrais introduire cette idée de table de Gottesman qui va nous servir pour représenter le groupe de Clifford à 2 qubits. Le groupe de Clifford avec 2 qubits va être beaucoup plus riche que le groupe de Clifford à 1 qubit. À 1 qubit, vous avez 24 opérations. À 2 qubits, vous avez des milliers d'opérations. Voilà comment ces tables se présentent. Vous avez l'opération et finalement c'est un peu comme une table de vérité. C'est-à-dire que mais une table de vérité dans laquelle vous ne trouvez pas des 0 et des 1, mais ces symboles X et Z. Vous avez les générateurs ici dans la première colonne et ces générateurs sont envoyés vers des générateurs images que vous mettez dans la deuxième colonne. Vous voyez comment ça fonctionne. Prenons H, l'opération de Hadamard, parce qu'elle est très simple à visualiser. C'est une simple transposition des générateurs. ZX devient XZ. On va lui substituer la rotation autour de Y qui fait à peu près la même chose, qui transforme ZX en X moins Z. Le moins, finalement, c'est une petite complication qu'on va savoir maîtriser. La rotation autour de Z, c'est un peu plus subtil, elle laisse le générateur Z invariante et change X en moins X. Ainsi de suite. Vous voyez comment ces tableaux sont construits. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le tableau correspondant à une opération pour 2 qubits. Prenons par exemple une opération bien connu, qui est le C-note, le contrôle note. Donc l'addition modulo 2, hein, on prend le bit de contrôle et on l'ajoute au bit cible, ici. Si vous voulez raisonner en termes de quête et voir l'opérateur qui réalise cette opération, voilà sa matrice, mais on la laisse de côté parce qu'elle ne nous dit pas grand-chose. Le C note, le contrôle note, dans le langage déstabilisateur, se représente par cette table de vérité. Alors je vous propose, on ne va pas regarder le haut de la table pour le moment, on va regarder les deux dernières lignes ici. Elles sont très simples à imaginer, ces deux dernières lignes. Elles disent quoi? Elles disent que si vous prenez le bit de cible qui est à droite, Eh bien, si vous n'avez rien fait sur le bit de gauche, ici, il y a un i, là, eh bien, il va rester lui-même. Par contre, si vous avez, vous avez tourné le bit de gauche, comme c'est le bit de contrôle, il va entraîner le bit de droite, et donc cette ligne, le fait que xi se transforme en xx, est assez clair. Donc finalement ici c'est ça, tout ça c'est une façon de un peu pédante de traduire cette opération. Ici ces deux lignes s'obtiennent par traduction absolument évidente des opérations booléennes. Alors, si vous voulez, là c'est comme si on avait i était 0 et x était 1. Cette ligne, bon, on l'accepte relativement bien. Parce que si vous tournez autour de Z le premier qubit, bon, c'est le bit de contrôle, mais autour de Z, ce n'est pas censé faire grand-chose. Donc, c'est assez compréhensible, le fait que ZI se transforme en ZI. Ce qui est absolument merveilleux dans cette table, c'est que, connaissant ces trois lignes, vous en déduisez la quatrième. La quatrième ne peut pas être indépendante des trois autres, parce qu'il faut que cet opérateur, ici, respecte les règles de commutation avec les autres. Il y a certaines règles de commutation de ces opérateurs entre eux. Comme cette opération CNOTE est un isomorphisme, les règles de commutation dans la colonne de droite doivent être les mêmes que dans la colonne de gauche. Par exemple, IZ commute avec xi, donc ici j'ai besoin d'un opérateur qui commute avec xx. En fait, si on examine toutes les possibilités, on voit qu'il n'y a que cette solution qui marche, zz. Donc iz doit se transformer en zz. Et ça, c'est absolument un phénomène merveilleux. C'est là où on voit que ces opérations quantiques sont quand même beaucoup plus fortes que les opérations classiques. En termes, dans le langage de l'information quantique, ça s'appelle l'action en retour en phase. Et vous voyez, ça correspond à une espèce d'échange entre le contrôle et la cible. En fait, le bit de cible devient en fait le contrôle du bit de contrôle, puisque finalement, vous avez ce bit de droite ici, le qubit de droite, va commander le qubit de gauche. C'est-à-dire qu'en gros, si vous tournez le qubit de droite autour de Z, eh bien, le qubit de gauche doit tourner. Alors que classiquement, c'était le bit de contrôle. Classiquement, l'information n'allait que de la gauche vers la droite. Mais quantiquement, vous avez un équilibre. De l'information passe de la gauche vers la droite dans le secteur X, mais passe de la droite vers la gauche dans le secteur Z. Il y a un équilibre qui s'établit. C'est une remarque extrêmement importante qui montre en quoi l'information quantique est en quelque sorte mieux adaptée à l'information tout court que les systèmes quantiques sont mieux adaptés à l'information tout court que les systèmes classiques. Ok, bon, j'ai dépassé très largement le temps. Je voulais juste, très rapidement, bon, je reprendrai ceci la prochaine fois, mais toutes ces règles de calcul à partir de deux qubits peuvent se comprendre très simplement. Lorsque vous voulez effectuer essentiellement une rotation autour d'un opérateur B, maintenant B peut être un opérateur quelconque, et puis vous pouvez l'élever soit à la puissance 1, soit à la puissance 1,5, eh bien vous avez ces règles extrêmement simples. Si l'opérateur est à la puissance 1, c'est une rotation de pi, et vous avez essentiellement, vous changez le signe de l'opérateur si les deux ici, les deux lettres anticommutent, et vous changez rien si elles commutent. Et si vous avez une rotation de type pi sur 2, eh bien, si les deux lettres B et A, enfin les deux mots B et A anticommutent, eh bien, vous simplement vous faites le produit de B avec A. C'est très extrêmement simple. C'est un peu abstrait quand on lit ça, mais en fait, sur quelques exemples, ça marche très vite. Pas question, évidemment, de décrire toutes ces lignes. C'est des exemples. Vous avez ça dans le... Vous pouvez réfléchir à chacune de ces lignes. En fait, le message essentiel, c'est que si vous savez, vous connaissez cette règle du produit vectoriel ordinaire, vous savez faire tous ces calculs. Donc, il n'y a aucune difficulté particulière. Vous pouvez vous sortir de toutes ces situations et finalement réaliser ces exemples très intéressants, c'est-à-dire comment vous effectuez le changement de base que vous voulez. Quand vous avez comment vous passez d'un état à un autre, quel type d'opération vous devez choisir, ceci s'obtient directement par ces calculs. Vous voyez, par exemple, si on passe de cette base de calcul à la base des signes, où finalement vous avez ces quêtes plus, 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 moins, etc., eh bien, en fait, il faut simplement tourner, changer les lettres Z en lettres X ici. C'est assez clair. Ça se voit moins bien sur les quêtes eux-mêmes. Cette permutation des lettres, cette transposition des lettres, s'obtient par deux rotations autour de Y sur chacun des qubits. Donc voilà la recette. En quelque sorte, si vous savez écrire la base de départ et la base d'arrivée par une espèce d'opération de division, vous savez ce que vous avez à faire. C'est ça qui est extrêmement précieux. Voilà un exemple un peu plus subtil où vous passez d'une base, encore une base produit, à cette fois-ci une base intriquée, c'est la base de phase, et finalement une simple division là, des opérateurs vous montre que c'est cette fameuse opération séculaire, cette rotation autour de pi sur 2 autour de ZZ, qui vous permet de faire ce changement de base très utile. Dans les calculs, vous montrent qu'il y a des signes auxquels il faut faire attention, mais si vous voulez effectuer juste ce changement de base, ces signes ne sont pas importants. Enfin, bon, finalement, vous pouvez de proche en proche, comme ceci, naviguer dans l'ensemble des stabilisateurs. Vous pouvez passer d'un ensemble d'états, d'une base d'états à un autre. Simplement, si vous voulez, les lettres elles-mêmes vous renseignent sur l'opération à effectuer. Lorsque vous voulez passer d'un triangle à l'autre, eh bien, simplement en divisant les opérateurs entre eux, eh bien, vous savez quelle rotation il faut faire, quelle opération il faut faire. Donc, par exemple, passer de la base de calcul à la base de Bell, qui sert dans de nombreux algorithmes. Cette base de Bell, par exemple, va vous servir, si vous voulez, par exemple, faire des expériences de violation des inégalités de Bell, eh bien, vous pouvez vous convaincre qu'il vous faut quatre opérations, quatre rotations de pi sur 2 pour aller de la base de calcul à la base de Bell. Vous voyez, vous êtes obligé de faire un détour. On n'a pas les primitives ici pour aller directement en un coup de la base de la calcul à la base de Bell. C'est un peu comme un damier, finalement. C'est un peu comme un jeu d'échecs. Vous avez certains coups que vous pouvez réaliser et vous pouvez vous déplacer de case en case. Et voilà, par exemple, un chemin, en fait, un algorithme encore plus court où vous allez passer de la base de calcul à la base de phase. Ça, c'est une opération qui permet de passer un état intriqué en un minimum de coups. En trois coups seulement, vous atteignez cette intrication. Voilà, j'ai largement déplacé l'heure. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.